Un mot, une théorie, un chiffre, un expert prend le temps de nous éclairer.
Et on passe tout de suite à la partie magazine de l'émission. Quel est le point commun entre la société pétrolière BP, Apple, Quick et Renault ? Eh bien, ces quatre anciennes ont dû faire face à une gestion de crise avec un objectif, ne pas salir leur image. Cet après-midi, on va tenter de comprendre comment une entreprise arrive à gérer une crise et au final, arrive-t-elle à sortir indemne ? Éclairage avec Didier Edrich. Bonjour Didier Edrich.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes président de l'Observatoire international des crises. J'ajoute que vous venez de publier un livre, Plan de gestion de crise aux éditions Duno. La semaine dernière, la chaîne de fast-food Quick a fait la une de l'actualité après le décès d'un adolescent qui avait mangé la veille dans un Quick d'Avignon. Alors, pour comprendre la gestion de crise, on va prendre pour commencer cet exemple, l'exemple de Quick. Comment cette entreprise a-t-elle géré cette crise ?
Avant de parler de la gestion de la crise par l'entreprise, gestion qui est en cours actuellement, il faut savoir ce qu'est une crise. Et une crise, c'est toujours une plongée dans l'incertitude. Et dans le cadre de cette crise-là, on s'en aperçoit très bien pour une raison très simple. C'est qu'à l'heure qu'il est, personne n'est en mesure d'affirmer ou d'infirmer qu'il y a un lien direct entre le décès de cet adolescent et le fait qu'il ait dîné dans un restaurant Quick.
Il y a des tests qui ont été faits et qui n'ont pas révélé la célébrité des lieux chez Quick.
Absolument. Aujourd'hui, on est quand même dans une société où les choses sont relativement bien maîtrisées, mais actuellement, effectivement, on est toujours dans cette phase d'incertitude. Et donc, toute la complexité en matière de gestion de crise, c'est d'arriver à gérer cette incertitude.
Et comment Quick a géré cette incertitude ? Parce que ça fait déjà une semaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait en une semaine pour essayer de rassurer leurs clients ?
Alors c'est là qu'il y a toute la difficulté en fait. Hein. C'est-à-dire qu'entre le temps de la gestion de crise, l'évaluation de la situation, la compréhension de ce qui s'est réellement passé, et le temps médiatique d'une part et le temps des clients d'autre part, il y a toujours un décalage qui fait en sorte que cette zone d'incertitude dont on parlait tout à l'heure, à un moment donné, peut s'étendre. Alors, pour Quick, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de délimiter la zone de la crise, en fait, de mettre un périmètre de sécurité autour de la crise, comme on met un périmètre de sécurité autour d'un immeuble qui risque de s'effondrer. À savoir, c'est éventuellement un restaurant, un jour précis, qui est impacté par la crise, et non pas l'ensemble de restaurants Quick de France.
Et le problème, c'est de rassurer les clients. Et on a vu que lundi, certains médias indiquaient que la fréquentation des Quick avait légèrement chuté.
Alors ça, c'est tout à fait normal, hein, à savoir que finalement, autant des transports en commun, par exemple, on est obligé de les prendre, autant on n'est pas forcément obligé d'aller manger dans un restaurant Quick. Donc en attendant les résultats de l'enquête, les gens désertent de façon assez naturelle ces restaurants-là pour la simple raison qu'ils n'ont pas obligation d'y aller.
Est-ce que ça ne va pas salir l'image de la marque ?
Alors, pas seulement l'image de la marque. Hein, y a souvent beaucoup de confusion autour des crises. Hein. Aujourd'hui, on parle de Quick. Je suis persuadé que si on interrogeait des gens dans la rue dans 3 mois, il y aurait une confusion entre Quick et d'autres marques de restauration rapide. Donc,
comme
c'est
McDo.
Même la filière entière qui est impactée par cette crise.
Et c'est à peu près ce qui s'est passé aussi en 2002 avec les restaurants Buffalo Grill.
Alors en 2002, sauf qu'en 2002, en plus, la crise a été très mal gérée par Buffalo Grill, qui a créé le feuilleton médiatique, qui l'a créé comment c'est-à-dire en cachant un certain nombre de choses, hein, pour révéler dans un second temps qu'effectivement, ils avaient importé du bœuf britannique pendant la période d'embargo, ce que Quick évite de faire actuellement, en fait. En essayant d'être relativement factuel. En même temps, c'est très difficile de rassurer alors qu'on est dans une phase émotionnelle. Et l'émotion, lorsqu'elle prend le dessus en situation de crise, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour les marques, simplement parce que l'émotion provoque des problèmes en matière de raisonnement de la part des publics, en fait. C'est-à-dire qu'on a beau être factuel, lorsqu'il y a des peurs, ces peurs-là sont difficiles à maîtriser.
Concrètement, comment une entreprise gère-t-elle la crise ?
Alors, comment elle gère les crises ? D'abord, il faut savoir qu'effectivement, une crise, c'est une plongée dans l'incertitude. Alors, tout d'abord, on a généralement un événement déclencheur, et les premiers réflexes, ce sont des réflexes de sauvegarde. Sauvegarde des personnes, sauvegarde des biens, sauvegarde de l'environnement. Et là, on est sur un mode réflexe, un mode d'urgence. Dans un second temps, se réunit ce qu'on appelle une cellule de crise, la cellule de crise doit évaluer véritablement ce qui s'est passé, les impacts et les enjeux pour pouvoir agir. Donc les crises, ce n'est pas uniquement des choses automatiques, c'est également la capacité à recueillir de l'information, à comprendre cette information et à pouvoir décider à bon escient.
Est-ce qu'il faut agir dès les premiers instants ou attendre quelques jours avant qu'un dirigeant s'exprime dans la presse ?
Ah, là, vous parlez en termes de communication. Mmh. Aujourd'hui, on est alors aussi bien dans la gestion de crise d'une façon générale. On a une fenêtre d'intervention. Vous avez un début d'incendie, vous avez une fenêtre d'intervention pour éteindre l'incendie. Autant, aujourd'hui, en matière de communication, on a souvent également une fenêtre d'intervention. C'est-à-dire que si une entreprise qui est en crise ne s'exprime pas, vous allez avoir d'autres acteurs qui vont s'exprimer et l'entreprise va être en retard sur l'information et dans la justification, ce qui est d'autant plus difficile à gérer.
Donc il faut qu'ils agissent dès les premiers moments.
Alors, dès les premiers moments, oui, de toute façon, déjà parce que il y a une communication dont on parle peu, mais qui est finalement extrêmement importante, qui est la communication interne. Il n'y a pas que la communication médiatique, donc il n'y a pas qu'à porter finalement la crise vers le grand public, mais il y a à communiquer avec l'ensemble des partenaires de l'entreprise, et ça doit être réalisé au plus tôt. Ensuite, vers le grand public, tout dépend si la crise sort ou pas de l'entreprise, s'il y a des impacts externes ou pas à l'entreprise. Donc il n'y a pas non plus, on n'est pas non plus forcé d'alerter le grand public. Sauf qu'aujourd'hui, dans la société d'information, et on l'a vu avec Renault, la crise de Renault, finalement, c'est quelque chose, c'est une histoire de famille, quelque part.
Une histoire interne.
C'est une histoire interne. Mais aujourd'hui, dans la société d'information, on sait que quelque chose d'important ne peut plus être finalement masqué.
Justement, j'allais revenir sur Internet. Internet, c'est un avantage ou un inconvénient pour les entreprises aujourd'hui ?
C'est-à-dire que Internet, aujourd'hui, on est dans une... Alors, les crises sont généralement complexes. On a une plongée dans l'incertitude. Elles demandent énormément de pédagogie. Or, sur Internet, on est sur de la fluidité de l'information, de la rapidité d'information et des formats courts, si on regarde Twitter, par exemple, qui sont finalement en décalage avec les besoins d'explication de l'entreprise. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de très facile à gérer pour elles en situation de crise.
Alors, qu'est-ce que vous leur enseignez ? Il faut qu'ils parlent sur Twitter, sur Facebook, sur les autres réseaux sociaux ?
Ah, tout dépend. D'abord, être sur les réseaux sociaux, c'est une question de culture et de culture interne à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas subitement s'improviser sur les réseaux sociaux si on est en situation de crise, si on n'y est pas préalablement. C'est déjà difficile pour une entreprise d'être sur des réseaux sociaux en temps normal. En situation de crise, c'est encore plus difficile.
Et je me souviens, IKEA avait, avec les grèves, il y a eu des grèves à IKEA, et on a parlé que IKEA aurait acheté des mots-clés pour essayer de contrôler la grève au niveau de son image. Est-ce que c'est courant, ça ?
Absolument, enfin, de contrôler son image au niveau de la grève. Mmh. Effectivement, IKEA a acheté des mots-clés. C'était une erreur grossière. Pourquoi ? Parce que Internet, c'est un média déhiérarchisé. C'est-à-dire où tout le monde doit être à peu près au même niveau. À partir du moment où vous achetez des mots-clés, déjà, vous déhiérarchisez le média et ça ne convient plus. D'autre part, on était sur une crise sociale chez IKEA. Or, une crise sociale, ça se gère avec les syndicats. Ça ne se gère pas en prenant à témoin le grand public sur Internet. Et là, il y a souvent d'ailleurs autour d'Internet aujourd'hui un certain nombre d'essais qui relèvent souvent du bricolage et d'un certain nombre de croyances. Alors que sur d'autres médias, on est beaucoup plus prudent.
Donc vous ne conseillez pas aux entreprises d'acheter des mots-clés ?
Je déconseille aux entreprises d'acheter des mots-clés.
Dimanche dernier, Carlos Ghosn, le PDG de Renault, s'est exprimé sur l'affaire Renault. Il était sur TF1. Est-ce que c'est utile qu'un patron aille dans un journal d'une grande chaîne télévisée ?
Tout dépend de l'ampleur de la crise. Tout dépend de l'impact de la crise. Il y a un moment donné où le patron se doit de prendre la parole. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où il le fait, il s'expose très directement. Particularité de chez Renault, depuis plusieurs années, le porte-parole de Renault, c'est Carlos Ghosn. Donc c'était assez difficile pour Renault d'improviser d'autres porte-paroles, alors que d'une façon générale, les médias sont habitués à s'adresser directement à Carlos Ghosn. Mmh. Donc là, ils ont créé eux-mêmes une contrainte qui fait en sorte qu'il n'y avait pas de bouclier, si vous voulez. Et toute la difficulté pour Carlos Ghosn dans cette crise-là, c'est l'absence de contenu. C'est-à-dire qu'il est venu s'exprimer pour dire qu'il ne pouvait pas s'exprimer, pratiquement.
Est-ce qu'il vous a convaincu ?
Ça dépend de ce qu'il voulait faire, quels étaient ses objectifs. Visiblement, ses objectifs, c'était de préciser que tout ce qu'avait engagé Renault en matière d'action judiciaire et autres envers ses employés était justifié. L'absence de contenu, c'est-à-dire que lorsqu'il parle plutôt de présomption que de preuve, fait en sorte qu'on n'est pas tout à fait convaincu par sa prestation médiatique.
Ouais, il n'a pas présenté de preuves au cours de l'interview.
Bah, c'est extrêmement difficile, hein, parce qu'on est dans une affaire judiciaire. Mmh. Être interviewé très directement sur une affaire judiciaire, ça fait qu'on a des contraintes supplémentaires, celles qu'on ne peut pas tout dévoiler, on ne peut pas tout dire, ce qui fait qu'il est venu au charbon, on ne peut pas dire autrement, avec finalement peu d'éléments qui puissent l'aider.
Est-ce que ça se prépare des interviews comme ça, en amont ?
Oui, bien sûr, ça se prépare. Oui, bien sûr. Vous avez des spécialistes donc, du media training qui préparent ces interviews-là, qui préparent un certain nombre de mots-clés, qui préparent des questions-réponses, qui préparent les attitudes même des personnes, bien sûr, oui.
Est-ce que c'est pas quand c'est trop préparé, ça se voit ? Est-ce que c'est pas crédible quand c'est trop préparé ?
On a vu des prestations effectivement trop préparées, avec un manque de naturel. On a vu des gens à qui, très visiblement, on imposait un certain nombre de gestes, un certain nombre de postures, en décalage avec les mots, et à partir de ce moment-là, il y a une perte totale de crédit.
Est-ce que concernant les chaînes télévisées et les JT, est-ce qu'il y a une importance qui est mise sur tel ou tel JT, par exemple le JT de France 2, le JT de TF1 ou un JT comme M6?
Théoriquement, tout ça doit relever d'une stratégie de communication. Parfois, finalement, en dehors du JT, on peut privilégier une presse très locale, si l'accident est localisé. À partir du moment où on est sur France 2 ou sur TF1, on s'adresse à l'ensemble des Français. Donc à partir de ce moment-là, c'est une volonté effectivement de porter de façon très large sur la place publique la parole de l'entreprise face à une crise.
Et concernant Servi, un dernier mot concernant Servi, est-ce que l'entreprise va réussir à sortir de cette crise indemne ?
Indemne, non. On a peu de certitudes en situation de crise. Là, sans trop m'avancer, je peux dire effectivement que forcément, l'entreprise aura des difficultés à s'en sortir indemne. N'en serait-ce que parce que c'est le grand oublié des crises, alors que c'est un des facteurs les plus importants que pour les employés de Servier. C'est pas si évident que ça à gérer. Moi, j'imagine simplement l'employé de Servier qui rentre chez lui et qui a des amis, qui a invité des amis. Et alors qu'il est, il doit être questionné. Donc, c'est pas forcément facile à vivre. Donc, cette crise-là, c'est une plaie ouverte et elle est ouverte pour longtemps.
Et comment les entreprises peuvent réussir à enlever cette plaie et qu'on blanchisse ce Servier, qu'on n'associe plus maintenant Servier au Mediator ? Ça doit prendre des années, je pense.
Alors oui, ça prend des années. Hein. Si on regarde le Crédit Lyonnais qui a muté en LCL. Alors moi, je suis parti d'une génération qui confond encore Crédit Lyonnais ou LCL. Mais des générations plus jeunes auront oublié, lorsqu'on parlera de la crise du Crédit Lyonnais, qu'il s'agissait d'LCL. Donc, ce sont des processus extrêmement longs.
Donc, est-ce que changer de nom, ça aide ?
Alors, changer de nom, ça aide. C'est pas forcément suffisant. Tout dépend de l'ampleur de la crise, de la profondeur de la crise. Mais en tous les cas, rétablir une image d'une entreprise consécutivement à une crise, aujourd'hui, je crois que ça serait prétentieux pour qui que ce soit de dire « nous savons faire ».
Merci.
C'est vraiment quelque chose de très compliqué.
On suivra donc ça. Merci beaucoup Didier Edridge d'être intervenu en direct sur Prune. Je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire international des crises et que vous avez écrit un livre « Plan de gestion de crise » aux éditions Dunod. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.